2, 3.
Hey, salut. En direct de la vacance. Des secondes, ça passe en liberté.
Sarah, Manon, Marie, Lucie, Julie, Kenza, Oriane, Laura,
Lucie,
Chloé,
Alexandra,
Florine,
Julie,
Marion.
Bonjour, nous sommes les élèves de seconde Sapat à la Vacan à Pavie. Dans le cadre d'un projet radio en ESC, nous avons travaillé sur le thème de la liberté pendant toute une semaine. Chaque élève a écrit sur son expérience personnelle, avec beaucoup de sensibilité. C'était un travail difficile, mais qui nous a permis de nous exprimer.
Nous avons aussi rencontré des professionnels de tous les horizons qui ont témoigné sur leur métier. Tout d'abord, Valérie Belda, infirmière à l'AMPA, qui nous a parlé des addictions. Puis M. Éric Lalgois, juge des libertés et de la détention du tribunal d'Auch. Et pour finir, un chanteur nommé Abdellah Clacra.
La liberté du côté des addictions, Florine et Sarah ont rencontré et interviewé Valérie Belda, une infirmière. Elles vont nous la présenter.
Nous sommes allés au Carude, à Auch, pour savoir quel était le lien entre la liberté et les addictions. Nous voulions comprendre pourquoi nous perdons notre liberté lorsque nous devenons addicts à un produit. Autour de cette question, nous avons interviewé Madame Belda, qui est infirmière dans un centre qui s'appelle le XAPA, Centre de soins et d'accompagnement et de prévention en addiction. À notre arrivée, nous avons été accueillis et installés sur une terrasse au soleil, à côté d'un petit jardin. Nous avons passé un agréable moment en sa compagnie.
Madame Belda travaille pour l'ANPA, l'Association nationale de prévention en alcoolologie et addictologie. Il y a une ANPA par département. Elle intervient donc aussi au Carude, centre d'accueil et d'accompagnement pour la réduction des risques des usagers de drogue où nous l'avons rencontrée. Le Carude est un lieu d'accueil géré par l'association Regard qui prend en charge les usagers de drogue pour les aider à réduire les risques liés à leur addiction.
Nous donner une définition de l'addiction.
C'est tout simplement la perte de liberté de s'abstenir, de consommer ou de faire quelque chose.
Comment une personne se rend-elle compte qu'elle a une addiction ?
Quand on utilise un produit, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on perd cette liberté. C'est un processus qui se fait petit à petit. Et en fait, c'est un engrenage dans lequel on va s'inscrire et on ne s'en rend pas compte. D'autant plus que très souvent, la personne s'inscrit dans du déni, c'est-à-dire qu'elle se cache un petit peu la vérité. Hein, et donc, pendant un certain temps, ce processus va s'installer de manière insidieuse dans notre organisme sans qu'on s'en rende compte. Et finalement, le jour où on s'en rend compte, le jour où on dit j'ai un problème peut-être avec ce produit-là, bien souvent la dépendance est déjà installée. La dépendance ou l'addiction, c'est la même chose.
Avez-vous déjà été vous-même addict à un produit ou quelque chose d'autre ?
Oui, et toi aussi. Parce que nous sommes tous addicts à quelque chose. Parce qu'il n'y a jamais eu une société sur cette terre qui ait pu vivre sans addiction. Alors aujourd'hui, on a des addictions aux produits. Celles-ci, elles sont anciennement connues. Hein, les hommes préhistoriques avaient utilisé déjà le cannabis, donc à des fins récréatives et pour ses effets psychoactifs. Et aujourd'hui, il y a ce que l'on appelle les nouvelles addictions sans produits. Et ce sont toutes les addictions aux écrans. Et on est tous addicts à quelque chose.
Quel est selon vous le conseil le plus efficace pour arrêter la consommation ?
Il n'y a pas un conseil, il y a beaucoup de conseils que l'on peut donner. En tout cas, il n'y a pas de phrase magique pour inciter quelqu'un à arrêter de consommer. La seule chose que je pourrais conseiller, c'est que quand on a un problème d'addiction, c'est de ne pas se débattre tout seul avec son addiction et de rencontrer des professionnels. Alors quel que soit le professionnel, parfois il faut en essayer plusieurs pour trouver celui qui va nous convenir, mais se faire entourer. Arrêter de consommer, c'est compliqué, c'est long, c'est douloureux, et parfois la famille elle n'est plus là parce que ils ont déjà beaucoup donné et ils sont épuisés. Et donc, le meilleur des conseils, c'est d'aller voir un professionnel, quel qu'il soit, où qu'il soit, et que l'on trouve le professionnel avec qui on va pouvoir partager ce moment de l'arrêt qui est un moment qui est long. Il n'y a pas de traitement miracle pour arrêter une addiction. On s'engage dans un processus qui va être long et donc il faut se faire épauler. C'est ça, je crois, le meilleur conseil que j'ai à donner, quel que soit le produit d'ailleurs.
Qu'est-ce que pour vous la liberté?
Alors, la liberté, qu'est-ce que c'est? Alors, la liberté, c'est, je pense, d'abord avoir, savoir, d'abord bien se connaître, savoir qui on est, avoir dans sa tête tout un tas de règles, un cadre qui nous a été transmis par nos parents, par la société. Et en fait, c'est bien connaître les limites. Et à l'intérieur de ce cadre, je peux tout faire. Mais je ne suis libre que si je connais les frontières de ma liberté. Pour moi, c'est ça la liberté, c'est bien se connaître et savoir où c'est que je peux, jusqu'où je peux aller.
Il était important pour nous de lui poser la question suivante. Quand un mineur vient vous voir, devez-vous garder l'anonymat? Ce à quoi elle nous a répondu.
On doit absolument garder l'anonymat, c'est une des règles d'abord du métier de soins, c'est-à-dire qu'on doit évidemment préserver l'anonymat, la confidentialité des soins que nous allons prodiguer, ça c'est absolu. Et en ce qui concerne les plus jeunes, ceux qui sont mineurs, ce sont leurs parents qui ont évidemment l'autorité parentale. Néanmoins, dans le cadre des consultations de jeunes consommateurs que nous pouvons mettre en place, enfin que nous mettons aussi en place, hein, notamment dans la ville d'Auch, mais également dans le département du Gers, les jeunes peuvent venir sans avoir, entre guillemets, l'autorisation de leurs parents. Et ils n'ont pas besoin de leur dire, et évidemment, nous n'avons pas le droit de leur dire que leurs enfants viennent chez nous. Alors tout ça est encadré par la loi. Et nous avons le droit de les voir à 5 reprises dans ce cadre-là, de la confidentialité absolue. Au-delà de ces 5 consultations, là, il faut avoir l'accord des parents. Et évidemment, on fait en sorte que d'amener le jeune à pouvoir parler à ses parents. S'il souhaite poursuivre la prise en charge, bien sûr.
Nous allons commencer les témoignages en écoutant Alexandra qui évoque la difficulté des parents à gérer leur inquiétude face aux besoins de liberté de leurs enfants qui grandissent. Chloé va ensuite nous raconter une histoire d'adoption.
Parfois, quand on est parent, on est obligé de priver ses enfants de liberté pour les protéger. Il y a 5 ans, lorsque j'étais en 6e, après les cours en rentrant chez moi, je me suis fait poursuivre par un garçon qui n'avait pas bonne réputation, qui était assez violent. Il est venu près de moi retirer son couteau de sa poche. J'étais effrayée, je n'ai pas su comment faire ni comment réagir. Comme par miracle, ce jour-là, ma mère est venue me chercher. J'ai couru vers elle, au début je ne voulais rien lui dire, aucun mot n'arrivait à sortir de ma bouche, puis j'ai décidé de lui raconter. Depuis ce jour-là, mes parents m'interdisent toute sortie par peur que cela m'arrive une seconde fois. En 6e, ça ne me gênait pas, mais plus je grandis, plus je me sens oppressée et j'ai l'envie d'avoir plus de liberté. J'aimerais juste pouvoir sortir, m'amuser sans forcément avoir à négocier. Je suis consciente des craintes qu'il y a et aujourd'hui je n'aurais sûrement pas réagi de la même manière qu'autrefois. La liberté, faut savoir la gérer et sans en avoir peur.
Tout commença en 2008, quand j'ai rencontré Zoufane et Zekarias. Mais avant tout, je vais vous raconter leur histoire. Il y a 7 ans, mon tonton et ma tati ont entamé une démarche pour pouvoir adopter 2 petits Éthiopiens. Ils ont été accompagnés par une association pendant 5 ans, 5 longues années. Ils ont alors décidé de changer d'association, et puis 2 ans après, Zoufane et Zekarias sont arrivés en France. Le soulagement de savoir qu'ils auront une vie tellement meilleure me comble de plaisir. Pour eux, avoir été adoptés en France signifie ne plus se soucier de trouver de la nourriture. À leur arrivée, ma tati avait remarqué que la grande sœur, Zoufane, gardait à chaque repas de la nourriture pour son petit frère. par peur qu'ils n'en aient pas assez. J'ai dû attendre l'été suivant pour faire leur connaissance et rencontrer pour la première fois mes petits rayons de soleil. Lors de cette première rencontre, j'ai été frappée par la joie dans le regard du petit et la crainte dans le regard de la grande. Je m'avançais vers eux, les pris dans mes bras et je me mis à pleurer. Non pas de tristesse mais de joie de délivrance. Car après ces 7 longues années, ils étaient enfin là, en bonne santé et heureux. Cette adoption leur a permis d'avoir la possibilité d'une vie meilleure et les a libérés de leur destin déjà tout tracé dans l'orphelinat éthiopien.
Florine et Julie vont toutes deux évoquer le sentiment de liberté qu'elles ont ressenti pendant leurs vacances.
Chaque année, je pars en vacances avec le centre de loisirs de mon village. Je me sens déjà un peu grande et assez mature du fait de partir sans mes parents. Pendant le séjour, les ados, 14-17 ans, ont le droit de sortir en ville sans surveillance. Vu que les adultes nous font confiance, c'est très important pour nous de respecter les règles. Nous sortons dans la ville où nous allons à pied de 22h à minuit et demi. Nous sortons à plusieurs, mais mes amis et moi restons groupés. Nous allons marcher, puis manger des glaces. Nous nous posons dans un bar où nous nous baladons dans la ville. En rentrant, nous allons toujours voir les animateurs pour leur signaler que nous sommes rentrés. Pour moi, ces voyages évoquent la liberté car je suis sans mes parents et du coup je suis assez autonome. C'est moi qui dois faire mes propres choix. Quand je fais ces voyages avec mes amis, c'est vrai que nous nous sentons libres et c'est pour ça qu'on les fait chaque année pour retrouver cette sensation de liberté.
Cet été, ma mamie Janine, ma sœur Emeline et moi avions décidé de partir au camping au bord de la mer. Après 4 heures de route, fatiguées, nous arrivons enfin sur les lieux. Nous avons déposé nos affaires dans notre caravane. Ma sœur et moi, nous mettons notre maillot de bain. Nous avons couru vers la piscine pour enfin nous rafraîchir. Des toboggans géants se dressaient devant nous. Nous avions toute l'après-midi pour nous. On avait la liberté de choisir où nous allons. On pouvait partir à l'océan ou à la piscine ou encore au restaurant. Je me sentais libre, vraiment, libre comme un poisson dans l'eau. Je souriais à l'idée de me savoir libre. Je m'étais même trouvé des amis. Le bonheur régnait. Même s'il y avait des horaires à respecter, cette année, pour la première fois, je me suis sentie libre.
La liberté du côté artistique. Chloé et Laura, quant à elles, ont rencontré et interviewé un artiste, Abdellah Lakra. Écoutons-les.
Quand on écoute une musique, on ressent un sentiment de liberté. Nous nous sommes demandé comment les artistes expriment cette liberté, au moment où ils écrivent les paroles, composent la musique et aussi quand ils chantent. Nous avons donc réalisé une interview d'Abdellah Lakra, qui nous a permis de répondre à ces questions.
Abdellah est un chanteur, compositeur, danseur et comédien. Il est né au Maroc et est arrivé en France à l'âge de 1 an. Il a longtemps vécu en Alsace, puis s'est installé à Auch. Il a fait de sa passion son métier. Nous vous laissons écouter l'entretien que nous avons réalisé à l'Abri des Possibles, qui est un café associatif situé à Auch, sur les berges du Gers, placé Place Barthès.
Dans quelle discipline vous sentez-vous libre ?
Libre, je me sens libre dans le chant, bien sûr, dans la musique. Je peux me sentir aussi libre quand je marche, quand je suis dans la nature, quand je fais du sport, par exemple. J'aime bien faire du vélo. Quand je suis sur le vélo, j'adore, parce que je me sens vraiment libre, beaucoup plus que dans une voiture. Et après, spécifiquement dans le chant ou dans la musique, la liberté, je la ressens le plus quand je fais des improvisations.
Quel est votre style de musique ?
Je me suis un petit peu spécialisé dans les musiques du monde. Vu que je suis né au Maroc, j'ai toujours été intéressé par les musiques qui viennent de partout. Donc je fais beaucoup de musique du monde. Je fais aussi du jazz, je fais du rock, j'ai fait beaucoup de styles de musique.
En quelle langue écrivez-vous vos chansons ?
Alors j'écris des chansons en français et en arabe.
Y a-t-il un lien entre la liberté et être artiste, pardon ?
Alors en fait, il faut faire attention à la liberté, ça veut dire tout et ça peut vouloir dire le contraire. Parce que des fois, on peut se sentir libre et en fait, on ne l'est pas. Quand on est artiste, on n'est pas forcément libre. On est comme tout le monde, on est obligé de gagner notre vie, sauf que ce qui nous fait gagner notre vie, c'est notre art. Ça, c'est pas forcément facile, parce que quand on crée des choses, on ne sait pas si ça va fonctionner, si les gens vont aimer, etc. Donc, la liberté, ça a un prix.
C'est quoi la liberté pour vous ?
La liberté, c'est de pouvoir, à partir de quelque chose qui existe, pouvoir prendre un envol. Si je prends l'exemple de la musique, quelqu'un qui va improviser, qui va chanter, qui fait... Je fais ce que je veux, là, j'improvise. Je ne sais pas ce que je vais faire dans la minute qui suit, même dans la seconde qui suit. C'est au moment où je le fais que je prends cette liberté. Alors, l'inconvénient avec ça, c'est que la liberté, quand on improvise, si on n'a pas jalonné un petit peu son chemin, le chemin de notre improvisation, et ben en fait, on va tourner en rond. On va improviser, faire des choses comme ça. Et c'est pour ça que de mettre des petites contraintes de temps en temps, ça nous permet encore plus d'aller chercher des choses vers lesquelles on ne serait pas allé. Si je prends, par exemple, l'image d'un chemin qu'on veut parcourir, improviser, c'est aller dans un endroit où il n'y a pas de chemin. Donc la liberté, pour moi, c'est de pouvoir avoir accès à quelque chose qui va nous mener plus loin que là où on a l'habitude d'aller.
Avez-vous fait des musiques sur le thème de la liberté ?
J'ai fait une chanson qui parle de la condition des femmes, parce que c'est un sujet qui m'a toujours touché. Donc c'est une chanson en trois langues. Elle s'appelle Sabali. Sabali, ça veut dire pardon, en djoula. Le djoula, c'est la langue la plus parlée en Afrique de l'Ouest. Donc il y a trois langues, le djoula, le marocain et le français. Et en fait... ça parle un petit peu de la condition de la femme et c'est vrai que quand je pense liberté, je pense aux femmes. C'est comme ça, je me dis... parce qu'il y a énormément de femmes qui ne sont pas libres, beaucoup plus que des hommes. Donc c'est vrai que cette chanson pour moi, elle raconte un peu les problèmes des mariages forcés, etc. Enfin, parce qu'il y a des femmes... Ma mère, par exemple... a été mariée, elle avait votre âge quand elle s'est mariée. Elle a été mariée de force. Donc voilà, c'est pour ça que ça me touche, parce que c'est un peu dans mon histoire, je porte ça par le fait de la vie de mes parents.
Nous avons passé un agréable moment en sa compagnie. Il nous a fait le plaisir de nous chanter une de ses chansons, sur le thème de la liberté et du droit d'aimer qui on veut. Il a composé la musique et les paroles ont été écrites par Elisabeth Soula.
L'un et l'autre. Ils marchent parfois à l'unisson dans les jardins de ciment, en parlant de la maison qu'ils habiteront dans 100 ans. Parfois ils construisent des ponts au-dessus des néants, et sur les rives de béton dessinent leur amour insolent. Il ne fait pas semblant, il n'a pas peur, il mélange les saveurs, il referme les volets à contre-cœur,
pages. Il parle souvent fort, elle n'est pas sage. Il mélange les couleurs. Ni l'un ni l'autre n'a peur des naufrages. Ils caressent leur frayeur. Ils marchent parfois à l'unisson dans les jardins de ciment, en parlant de la maison qu'ils habiteront dans 100 ans. Parfois ils construisent des ponts au-dessus des néants, et sur les rives de béton dessinent leur amour insolent. Il aime courir, elle bouge avec lenteur, il s'invente des pudeurs, ils se regardent en se sentant meilleurs, ils mélangent leur courage. Elle écoute à l'intérieur des coquillages, il lui parle d'ailleurs. Ils ont jeté là tout sa maquillage, ils caressent leur laideur. Ils marchent parfois à l'unisson dans les jardins de ciment, en parlant de la maison qu'ils habiteront dans 100 ans. Parfois ils construisent des ponts au-dessus des néants, et sur les rives de béton dessinent leur amour insolent. Quelquefois ce n'est pas un lunel, c'est un accord interdit. Quelquefois les destinées qui s'entremêlent sont des ailes et des ailes. Quelquefois il tient fort la main de lui sous l'œil noir des poubelles. Quelquefois ce qui fait s'unir les vies n'a pas été prédit. Alors elles marchent à l'unisson dans les jardins de ciment, en parlant de la maison qu'elles habiteront dans 100 ans. Alors ils construisent des ponts au-dessus des néants, écrivent sur le béton le livre de l'amour. Alors elles marchent à l'unisson dans les jardins de ciment, en parlant de la maison qu'elles habiteront dans 100 ans. Alors ils construisent des ponts au-dessus des néants, écrivent sur le béton le livre de l'amour tout puissant.
Manon nous témoigne de l'acceptation de son copain dans sa famille, puis Marie nous fait vivre son voyage seul en train. Et pour terminer, Marion nous racontera comment elle a réussi à décider de son avenir scolaire.
Au tout début de ma relation avec mon copain, j'ai eu plus de mal à en parler à mon père qu'à ma mère. En sachant que mes parents sont séparés, habitant chez ma mère, celle-ci l'a rencontré et l'a accepté tout de suite, sans poser de questions. Contrairement à mon père, qui lui habite dans le nord, ne l'a jamais vu ni rencontré, et donc m'a posé tout un tas de questions au sujet de lui, sa nationalité, sa couleur de peau. Même si je savais que mon père allait me poser toutes ces questions, à ce moment-là, je ne me suis pas sentie libre d'aimer qui je veux. S'il avait été métisse, ça n'aurait rien changé, car pour moi, on est libre d'aimer qui l'on veut.
L'été dernier, je suis allée dans le nord accompagnée de ma cousine et mes petits cousins. Ils étaient descendus dans le sud pour nous rendre visite et comme il restait une place dans la voiture, ils m'ont pris avec eux pour le retour. Cela m'a permis de revoir ma famille que je n'avais pas vue depuis longtemps. La semaine se passa bien. Ma cousine alla m'acheter des billets de train pour rentrer chez moi. Elle m'expliqua bien que j'avais 2 billets, un pour le train Lille-Bordeaux et un autre pour Bordeaux-Toulouse. Elle me dit qu'arrivée à la gare de Bordeaux, je n'avais que 10 minutes pour changer de train, mais que c'était simple et que si par malheur je ne trouvais pas mon train pour Toulouse, je n'aurais qu'à demander aux personnes qu'ils avaient un gilet rouge SNCF. Donc, un matin, je montais dans mon train, seule, j'étais contente, seule dans le train, j'étais libre. Sans stress, le trajet se déroulait merveilleusement bien. Accompagnée de mes écouteurs, je me laissais bercer par le bruit des rails et de ma musique. J'étais rassurée et je n'avais pas peur de me retrouver seule dans la gare. Arrivée à la gare de Bordeaux, je vis plein de gens descendre vite, se bousculer. j'étais seule, au milieu de centaines de personnes inconnues, je ne voyais personne avec un gilet rouge. Je demandais à des gens qui n'avaient pas le temps de me répondre. Sans réponse, et avec tout ce stress de me louper le train, je n'avais qu'une envie, m'asseoir sur un banc et de pleurer. Mais je ne pouvais pas, j'étais livrée à moi-même, je regardais sur les panneaux d'affichage, et par chance, mon train s'afficha. Je me faufilais vite dedans. La peur, l'appréhension disparurent, une fois assise. Je ressentis un grand soulagement, je n'avais plus de stress. Cette histoire m'a permis de voir que oui, la liberté c'est agréable, mais d'avoir une épaule sur laquelle se reposer est indispensable.
L'année dernière, la principale de mon collège et la conseillère d'orientation ne voulaient pas que j'aille en seconde professionnelle, parce que d'après elle et tous les professeurs, j'avais les capacités d'aller en seconde générale. J'ai voulu aller en SAPAT, service aux personnes et au territoire, à la vacance, car plus tard je veux devenir auxiliaire de puériculture. J'ai mené cette bataille car à mon avis, je n'avais pas les capacités d'aller en seconde générale et je ne me sentais pas prête pour y aller. Heureusement, mes parents étaient d'accord avec moi et ils ne se sont pas laissés convaincre par la principale ou par d'autres personnes. J'ai eu la chance de pouvoir choisir mon avenir et pas que quelqu'un choisisse à ma place. Mes parents m'ont laissé la liberté de choisir et ça, c'est une grande marque de confiance. Si je n'avais pas été en SAPAT, je serais en seconde générale à Lectoure et je ne ferais rien, je n'apprendrais pas mes leçons car je ne serais pas motivée. Malgré tout, j'ai bien fait de suivre mon choix et de ne pas écouter les autres car aujourd'hui, je ne regrette pas du tout. Et je suis heureuse dans la formation que j'ai choisie, en toute liberté.
Je voudrais la liberté, je voudrais la liberté. Je voudrais la liberté, je voudrais la liberté.
Auréane va nous expliquer son combat pour être acceptée avec ses différences. Sarah, quant à elle, nous racontera qu'elle n'a pas les mêmes libertés chez chacun de ses parents.
J'ai décidé de vivre ma vie, malgré mon handicap. Plus question qu'on me dicte ma vie, ma conduite, ni comment je dois être. Cette décision, je l'ai prise depuis plusieurs années, après avoir subi des moqueries sur mon physique. Fini le rendez-vous chez le médecin, ma vie d'enfant gâtée. Je veux vivre ma vie, comme tout le monde, avoir mon bac, un boulot et enfin vivre heureuse. Vivre malgré mes différences et être acceptée comme je suis. C'est mon combat et j'en suis fière. Pour moi, la liberté, c'est être tous différents et pouvoir assumer nos différences.
Lorsque je suis chez mon père, j'ai moins de règles à respecter et plus de liberté que lorsque je suis chez ma mère. Chez lui, je peux faire plus de choses, comme sortir les samedis soirs, sans forcément avoir à négocier longtemps. Je suis plus libre de m'exprimer comme je le souhaite. Par contre, chez ma mère, il y a plus de règles et de contraintes. Par exemple, lorsque je veux sortir quelque part, il faut qu'elle sache qui va y avoir, quand est-ce que je rentre, ce que je vais faire. Et je n'ai pas toujours mon mot à dire, ce qui parfois entraîne des disputes. Même si mon père me laisse faire, je sais au fond de moi que j'ai quand même des limites à respecter et certaines choses à ne pas faire. Les disputes avec ma mère se terminent parfois par une réconciliation, mais cela ne change pas tout, car je me sens comprimée par toutes ces règles. Pour moi, il faudrait qu'elle apprenne à me faire confiance, car cela n'est pas parce que je n'ai pas forcément de règles à respecter que cela pourrait se transformer en n'importe quoi. Pour moi, la liberté, c'est aussi se faire confiance à soi-même pour savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire.
La liberté du côté de la justice, Julie et Auréane sont allées rencontrer et interviewer le président du tribunal d'Auch, Éric Lelgouache. C'est parti.
Nous voulions savoir en quoi consiste le rôle d'un juge des libertés et de la détention. Car avant de le rencontrer, nous ne connaissions rien de sa fonction.
Nous imaginions qu'il avait le pouvoir de mettre ou pas des personnes en prison. Au fur et à mesure de l'interview, nous avons appris beaucoup de choses que nous souhaitons vous faire partager.
Nous allons donc vous présenter Éric Lelgouache. Il est président du tribunal de grande instance d'Auch depuis 2013. Il assume la fonction de juge des libertés et de la détention. Auparavant, il a exercé la fonction de juge des enfants pendant 10 ans. Nous l'avons rencontré dans son bureau au tribunal d'Auch pour lui poser des questions sur ses missions. Il nous a expliqué tout d'abord le rôle d'un juge des libertés et de la détention.
C'est une fonction assez un peu complexe parce qu'il y a trois aspects dans la fonction de juge de la liberté et de la détention. Alors, le premier aspect, c'est que le juge de la liberté et de la détention, il est chargé de placer en rétention les étrangers qui sont en situation irrégulière. Alors, il y a un autre aspect, il est aussi chargé du contrôle des gens qui sont placés en hospitalisation sans consentement. C'est les gens qui sont hospitalisés sans leur accord. Donc ça, c'est les deux aspects de la fonction. Et puis, sinon, il y a le troisième aspect de la fonction, c'est l'aspect pénal. C'est celui qui vous intéresse peut-être le plus. L'aspect pénal, ça consiste pour le juge de la liberté de la détention. Donc, il intervient dans deux phases. Une première phase, c'est dans le cadre des enquêtes, avant même qu'il y ait... Alors, c'est un peu compliqué, hein, c'est technique, mais quand il y a des enquêtes qui sont faites par la police sous le contrôle du procureur de la République, il y a certaines décisions qui doivent être autorisées par le juge de la détention. Et de la liberté. Alors ces décisions-là, c'est par exemple des perquisitions. Ça peut être aussi placer quelqu'un sous géolocalisation. Donc des perquisitions, des écoutes téléphoniques. Donc ça, c'est les trois grands axes. Et alors après, l'aspect principal, c'est quand une personne est suivie dans le cadre par un juge d'instruction. Le juge d'instruction peut estimer nécessaire qu'elle soit placée sous contrôle judiciaire ou la personne peut être placée en détention provisoire. Et ça, c'est aussi la fonction du juge de la liberté et de la détention. De placer la personne qui est mise en examen par le juge d'instruction en détention provisoire.
La détention, pour vous, elle sert vraiment à ne pas recommencer ?
Alors, le juge à liberté de la détention, il prend une mesure provisoire, en fait, dans l'attente du jugement. Donc, il y a des critères, c'est pour éviter que la personne s'enfuit ou qu'elle détruise des preuves ou des choses comme ça. Il y a des critères précis. Après, c'est la juridiction de jugement, ceux qui vont vraiment décider de la condamnation. C'est eux qui vont décider si les faits justifient d'aller en prison ou pas. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que la détention, c'est quand même, ça s'adresse aux faits quand même les plus graves ou alors à ceux qui ont commis de multiples infractions et qui n'arrêtent jamais. Donc il faut bien à un moment donné qu'il y ait une barrière, donc on peut les placer en détention ou parce que les faits sont très graves. Et je pense quand même qu'au total, la détention... Ça sert pour beaucoup de gens, c'est un détonateur, c'est quelque chose qui leur fait prendre conscience. Alors peut-être pas la première incarcération, peut-être pas la deuxième, peut-être pas la troisième, mais certains quand même, et pour beaucoup, au bout d'un moment, ils quittent la délinquance et ils changent de mode de vie et ils arrêtent de commettre des actes de délinquance. Donc je pense que ça a quand même un effet. On cherche à la détention, c'est d'abord une punition quand même, il faut le savoir. Et ensuite... On cherche quand même que ça puisse être profitable à la personne et que ça puisse l'aider au maximum à se réinsérer. Pour les plus jeunes, par exemple, pour les mineurs, parce que parfois ils sont à réapprendre à lire, à réapprendre un métier. Pour les plus âgés, à essayer aussi de préparer leur sortie, etc. Mais sur le total, on s'aperçoit quand même que des gens qui sont placés en détention, il y a beaucoup qui ne récidivent pas. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a un nombre assez important de gens qui ne récidivent pas. C'est-à-dire qui arrêtent en fait de commettre des actes de délinquance.
Pour vous, qu'est-ce que ça fait de priver quelqu'un de sa liberté ? Est-ce que ça vous fait ressentir des émotions particulières ou...
Oui, c'est toujours un moment difficile quand même. Ça, c'est quelque chose, un moment auquel on ne s'habitue jamais. Alors, soit c'est juge à liberté de la détention, il est tout seul. Et c'est vrai que placer quelqu'un en prison, ça suscite des émotions. C'est toujours... C'est toujours un moment un peu difficile.
Qu'est-ce que la liberté pour vous ?
Alors ça, c'est plus compliqué. Alors, la liberté, on pourrait dire que ça se définit comme la possibilité d'agir comme l'on veut, mais dans le respect général des règles d'une société. Mais dans le cadre de ces règles, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Notamment en France, on a quand même beaucoup de liberté. Alors vous avez Par exemple, si je parle en termes juridiques, vous avez la possibilité d'aller et venir, on ne va pas vous contrôler, vous pouvez aller ou venir où vous voulez, vous avez la possibilité de dire ce que vous voulez à partir du moment où ce n'est pas diffamatoire pour les autres, la liberté d'expression. Donc pour moi, c'est ça la liberté, c'est la possibilité d'agir comme l'on veut, mais dans le respect des règles générales de la société. Vous comprenez ? Ou dans la liberté, il y a aussi le fait, quand je dis respecter les règles, justement, le problème du droit pénal, des gens qui ont commis des actes de délinquance, c'est qu'ils ont utilisé leur liberté d'une certaine façon, mais d'une mauvaise façon, parce qu'ils n'ont pas respecté les règles. C'est par exemple des gens qui commettent un vol ou qui commettent une agression. Donc là, ils n'ont pas respecté le cadre de la liberté dans le système, dans les règles de la société française.
On retrouve Julie et sa passion dévorante pour le rugby, suivie de Kenza qui nous amènera en voyage en Afrique.
J'ai commencé le rugby à 9 ans. À cet âge, on joue dans des équipes mixtes. Mais les entraîneurs me laissaient toujours sur le banc de touche. J'étais frustrée de ne pas pouvoir jouer avec mes coéquipiers sur le terrain. Je rêvais d'avancer avec le ballon, de rentrer dans les autres joueurs, de plaquer. J'avais les images des matchs que je regardais, mais pour eux, les filles sont nulles. Elles doivent rester sur le banc de touche. Pourtant, au rugby, on est libre de jouer. On a un esprit d'équipe. Au rugby, qu'on soit une fille ou un garçon, on devrait tous et toutes avoir sa place. Maintenant, il y a plus de filles qui jouent au rugby que de garçons. Aujourd'hui, je suis en cadette et je joue souvent titulaire et des fois remplaçante. Dans mon club, ils nous font tourner pour que tout le monde puisse jouer. C'est mieux comme ça. Je peux vivre ma passion. Ce qui me plaît dans le rugby, c'est que c'est un sport d'équipe, de combat et de contact. Je joue talonneuse. J'aime bien ce poste car je talonne le ballon à mêlée et je lance en touche. Maintenant que je suis sur le terrain, je me sens libre. J'ai envie de jouer.
Il y a 2 ans, je suis allée en Afrique voir ma famille. Pour moi, c'est être libre parce qu'on se sent bien avec eux, il n'y a pas de jugement, de pression et on profite du voyage. Avant le départ, avec ma mère, on est toujours impatient d'aller à l'aéroport, passer par les boutiques de souvenirs, etc. Mais une fois dans l'avion, on a assez peur. À l'arrivée, la plupart de la famille vient nous chercher à l'aéroport. On est super heureuse de les voir. Pour moi, c'est un choix d'y aller car je n'y suis pas obligée. Être libre de voyager est important pour moi car on découvre d'autres paysages, de nouvelles personnes et on voit un peu les cultures qu'ils ont. Depuis toute petite, je pars en voyage pendant les vacances. Et j'aime bien parce qu'on est libre de choisir où c'est qu'on veut partir et je ne regrette jamais les destinations choisies.
Laura revient sur des questions de liberté et d'éducation. Puis Lucie nous transmettra le virus de la course automobile. Et nous terminerons par notre deuxième Lucie et sa belle histoire d'amitié.
Je vais vous parler de la liberté de choix, car elle me fait penser à ma cousine. Elle a le même âge que moi, 16 ans. Depuis petite, sa mère ne l'autorise pas, même de temps en temps, à faire comme les gens de son âge. Quand elle était plus jeune, elle n'avait pas le droit de choisir ses propres couleurs de vêtements. Aujourd'hui, elle n'a pas le droit de sortir avec ses amis. Elle ne se sent pas libre. Elle voit que ses amis et moi-même avions moins de limites qu'elle. Contrairement à ma cousine, je me sens libre, car mes parents m'accordent le droit de sortir et je n'en abuse pas. Je trouve qu'accorder un peu de liberté à ses enfants, même s'ils sont jeunes, tout en reposant des limites, est une bonne façon de leur apprendre à gérer cette liberté.
Cela fait 30 ans que mon grand-père fait des courses automobiles. Il possède un Speeder Fjord Evolution noir et orange. Quand je monte à côté de mon grand-père dans sa voiture de course, je me sens libre d'esprit même s'il y a de l'angoisse face à la vitesse. Je passe un moment magique et je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Ces sensations-là sont indescriptibles. Je ressens toutefois de la crainte à cause de la puissance de la voiture et des autres voitures qui passent près de nous. Mais je peux dire qu'il a réussi à me transmettre sa passion.
J'étais un week-end chez ma meilleure amie à Saint-Lys. Elle a voulu me faire une surprise car je n'étais pas forcément bien en ce moment, en m'amenant manger à un restaurant chinois et ensuite on allait à la fête à Saint-Martin pour me changer les idées. Là, par surprise, je découvre Emma, une fille que j'ai rencontrée sur internet. Ça a commencé par une demande d'amis sur Facebook et nous avons fait connaissance. Puis nous avons trouvé que nous avions plein de points communs. Un jour, nous parlions de se voir, on a essayé plusieurs fois et toutes sans réponse. Jusqu'au jour où nous avons pu réaliser ce fameux virtuel réel. C'est une simple rencontre faite sur internet. Ce virtuel réel n'était pas prévu, ça aura duré 6 mois pour se voir et on aura enfin réussi. Cette histoire a commencé banalement avec une fille tout simplement banale, mais avec laquelle j'ai beaucoup de points communs. On a continué à parler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Malgré les disputes et tout ça, elle est toujours là, avec moi, à mes côtés. Notre amitié est toujours soudée comme depuis le début. Le jour où nous nous sommes enfin vus pour la première fois, c'était tout simplement magique, merveilleux. Nous nous sommes tellement jetés l'une sur l'autre que nous nous sommes tombés à terre. C'est à ce moment-là que je me suis sentie libre. Je n'avais pas ma famille sur le dos, ni personne pour me critiquer ou me dire quoi faire. Le moment où nous avons dû nous quitter a été le moment le plus dur. Avec ma meilleure amie, nous avons fait une belle nuit blanche. Tellement cette soirée nous a plu, avec ma meilleure amie, nous nous sommes dit que nous referions la même l'année prochaine.
Do you like liberty? Do you like liberty? Do you like liberty?
Nous allons malheureusement devoir vous laisser. Merci d'avoir écouté notre émission dans laquelle nous avons travaillé depuis une semaine.
Nous tenons à remercier Valérie Belda, Eric Lelgouache, Abdelak Lakra et l'Abri des Possibles. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur notre web radio A Bloc Radio.
1, 2, 3. En direct de la vacance, des secondes sa patte en liberté.
Sarah, Manon, Marie, Lucie, Julie, Kenza, Oriane, Laura,
Lucie,
Chloé,
Alexandra,
Laurine,
Julie,
Marion.